front. En partance, de retour, là-bas, les mots, les sons et les images d'aujourd'hui. Yann Morvan, retour d'Israël-Palestine, du 8 au 16 octobre 2023.
Pour l'œil de l'info, Yann Morvan devait venir photographier les participants du prix Bayeux des correspondants de guerre. 3 jours avant le début de la manifestation, il me téléphone qu'il a un visa pour un pays compliqué. Bon. Et puis finalement, le dimanche 8 octobre, il décolle pour Tel Aviv, où la situation s'est plus que compliquée. Nous devions enregistrer un son depuis Israël, mais trop occupés par ses reportages pour Marianne, nous avons attendu son retour pour faire le point. Avec son franc-parler, Yann tire le bilan d'une semaine de guerre en Israël. Il connaît le terrain. Il a été longtemps à Beyrouth en même temps que Sir Donald McCullin, qu'il aurait bien volontiers salué à Bayeux. Coïncidence, les deux hommes sont très proches sur le constat qu'ils font de leur métier de photojournaliste. L'un plus âgé est peut-être plus désabusé, l'autre, eh bien écoutez-le.
Je ne vais pas faire des commentaires politiques parce que tous les jours on est abreuvé de blabla. C'est la faute des uns, c'est la faute des autres, etc. Bon, bah le conflit, il date depuis 100 ans, et on va pas revenir dessus. Moi, tout ce que je peux apporter, c'est, dans notre petit landerneau du photojournalisme, c'est comment ça marche. C'est-à-dire que, globalement, il y a quelque chose qui est évident, j'ai vu cet été en Ukraine, où là, maintenant, c'est que la presse n'est pas bienvenue. Ou bien, quand elle est venue, que ce soit d'une côté ou de l'autre, hein. c'est les informations qui sont distillées, des images qui sont préparées, tout s'est mis en place au niveau des médias, au niveau, ce qui est logique aussi. Par exemple, quand je suis arrivé à Tel Aviv le matin à 5h, la première chose à faire, c'est d'aller sur le front, c'est-à-dire d'aller voir ce qui se passe. On est 2 jours après, les choses ne sont pas fixées, donc s'il y a moyen de faire quelque chose, c'est à ce moment-là. Effectivement, puisque les terroristes, j'appelle comme ça du Hamas, hein, parce que sont encore dans la nature, on a publié la chasse au Hamas, c'est vrai que le type était là, donc les 2 jours après, rien n'est fixé. Et c'est là où éventuellement tu peux faire des images, avec des risques évidemment, mais avec des ressources. Effectivement, quelques jours après, la zone est figée, et c'est à ce moment-là où les services de presse font leur besoin. C'est-à-dire, ils disent, il faut aller là, on vous emmène là, on vous emmène là. Mais là, c'est plus de l'actualité, là, c'est, je dirais pas de la propagande, mais c'est de cette sorte d'information. Moi, je fais plus ça. Pourquoi je fais plus ça? Parce que ça fait bientôt 50 ans que je fais ce métier, ça fait 40 ans que je fais, 42 ans que je fais des conflits, et donc je l'ai fait au début. Et je comprends très bien hein, que les gouvernements veulent se protéger, et effectivement, aujourd'hui, à l'époque de l'immédiateté, c'est-à-dire montrer à... Je suis arrivé à un moment donné où les types... chassaient le Hamas et étaient en combat, donc ils n'ont pas envie de montrer, je fais une photo numérique que j'envoie sur l'heure, dans les 3 minutes, ça peut être vu de l'autre côté, donc je peux très bien imaginer qu'il y a ces aspects-là de préserver finalement la sécurité des hommes sur le terrain. Ça, je peux bien comprendre. Après, c'est très très compliqué de travailler. D'un autre côté, donc une première journée... donc sur côté de la bande de Gaza, quoi, dans Sderot, impossible d'aller, tout était bloqué déjà où il y a eu la rave party parce que bon, ils n'avaient pas, après ils ont organisé pour la presse, montrer les horreurs, etc. Et après donc on va filer à Hébron en Cisjordanie, et là si tu veux le problème c'est que l'armée est aussi malvenue puisque donc à Hébron t'as des militants du Hamas et t'arrives avec une voiture avec des plaques israéliennes et là t'es filé, tu te dis bon on va essayer de les sonner parce que sinon on peut faire les otages de l'autre côté, donc c'est très très compliqué aujourd'hui de travailler. Mais enfin, pour résumer, moi, ce qui m'a choqué et ce qui me choque terriblement, c'est qu'en 1982, j'ai fait l'opération Paix en Galilée. C'est-à-dire, j'ai passé 3 semaines avec l'armée israélienne jusqu'au siège de Beyrouth, et après, j'ai été pendant 2 mois et demi à Beyrouth, sous les bombardements israéliens. Ça, c'était un petit Gaza, pas au niveau de ce qu'il y a maintenant, mais c'était, j'ai les mêmes images qu'on voit aujourd'hui, etc. Et ce qui est terrifiant, si tu veux, et c'est que rien n'a changé, quoi. Et j'ai l'impression que ça va de main en pis. Et ce monde-là, puisque bon, bah, c'est vrai que d'une semaine à l'autre, on a l'Ukraine, après l'Arménie, et puis les attentats à Paris, et puis tout ça, une espèce d'un flot continu d'horreur, de carnage, et ça n'arrête plus. Alors moi je dis, alors à chaque fois, on me demande qu'est-ce que t'en penses, je dis Winter is coming, hein, pour paraphraser un fameux site série télé. Winter is vraiment coming. Il y a cette espèce de, même en France, les manifestations, les choses comme ça, etc. Les gens ont envie de s'entretuer. Il y a cette haine terrible. Quand on était à Hébron, tu peux pas sortir. Hébron, maintenant on peut plus rentrer. On a été fermé pendant 2 jours. Tu t'approches des checkpoints où les Israéliens. J'étais mis en joue et le type a allumé son viseur infrarouge pour tirer. Bon, le type en face, il a peur. Tout le monde a peur, et la peur, ça génère la violence et la haine. Il y a cette haine aujourd'hui qui est loin de la raison. Bon, tu peux imaginer que ce qui s'est passé le 7 est abominable. C'est quelque chose qui n'est pas concevable. C'est de l'ordre de la... C'est du carnage, si tu veux. Alors, mais d'un autre côté, ça va être la même chose de l'autre côté. La loi du talion. On est dans des pays de la Bible, quoi. T'as l'impression de rejouer quelque chose qui a plus de 2000 ans. C'est terrifiant. Et moi, de mon côté, mon problème à moi, c'est que j'ai l'impression d'être dans une espèce de roue, un peu un karma qui retourne tout le temps avec les mêmes personnages, les mêmes problèmes, etc. Rien n'a été réglé. Rien n'a été réglé. Rien ne sera réglé. Alors, bon, on parle de guerre mondiale. Oui, bien sûr qu'il y aura une troisième guerre mondiale, c'est évident. De toute façon, tu ne peux pas empêcher les gens de le malthusianisme, la surpopulation, l'écologie. Et puis le fait que, qu'on dise non, c'est que l'homme est un mammifère violent, c'est un prédateur. Ce qui se passe, là, ce qui s'est passé. Alors, les Israéliens disent c'est des animaux. Non, ce n'est pas des animaux. Les animaux, ils tuent pour se défendre ou pour manger. Là, c'est le Hamas qu'ils ont fait, c'est pour emmener dans un sillage de violence et de haine. Bon, après, tu diras, ils n'avaient pas d'autre choix que ça, peut-être. Mais en attendant, c'est pas en tuant des enfants et les femmes, il y a des choses comme ça que tu fais avancer une cause.
Eh oui.
À vrai dire, pourquoi je suis rentré, c'est parce que si je voulais continuer à travailler, faire les sujets que j'avais envie de faire avec Stéphane Auboire, qui est le rédacteur monde de Marianne, il fallait qu'on paye entre 500 et 1000 euros par jour. Ça, là, le journal n'a pas l'argent. Il y a le fait de savoir, c'est que les journaux n'ont plus d'argent. Tu sais, l'Express, par exemple, ils vendent 8000 copies par semaine en kiosque. Je veux dire, il n'y a plus de fric. En France, bon, bah voilà, c'est comme ça. Bon, il n'y a plus d'argent. Les chaînes de télé, t'avais TF1, t'avais des choses comme ça, ils ont des sous. Mais pour la presse papier, en plus, bon, tu comptes pour du beurre. Hein, quand t'arrives aux Israéliens, moi j'ai eu l'attaché de presse israélienne, elle m'a envoyé chier. Elle m'a dit, c'est hors de question, ça, s'il y a des photos. Voilà, donc tu vois, et puis tu expliques, tu dis, mais attendez, on est un journal, patati patata, on n'est pas anti-israélien, Marianne, c'est pas un journal anti-israélien, tu vois. Et non, rien à faire. Si tu veux. Donc si tu veux, c'est au fil de la guerre, c'est une affaire d'argent, t'as du pouvoir, t'as de l'argent, tu représentes un média, t'es une chaîne de télé, t'as 5 millions de gens, on va t'organiser des trucs, t'es un petit journal de merde, avec un photographe, bon, c'est quoi, il y a de Morvan, c'est une marque de Blédy, on sait pas, rien à foutre, je veux dire, tu rentres chez toi, quoi. C'est vrai. Alors, tu vas vouloir expliquer que t'étais en 82, que t'as couvert, etc., etc. Ils en ont rien à foutre. On est dans un truc d'immédiateté aujourd'hui où tout ce boycott, il n'y a plus. Et pourtant, il y a ce travail à faire. Bon, moi, l'année dernière, j'étais à Beyrouth. J'étais dans les camps de Sabra et Shatila, etc., etc. C'est terrifiant ce qui arrive aux Palestiniens. C'est horrible. Je veux dire, c'est vraiment. Bon, et puis, pour la grande majorité, ils ne sont pas responsables. Hein. Les gens qui se sont tués, c'est des civils. Alors tu me diras, ils ont tous voté pour le Hamas quand même, hein, en majorité à Gaza. Est-ce qu'ils avaient le choix de faire autrement ou pas? Qu'est-ce qui est derrière tout ça? Le Qatar qui donne de l'argent, Netanyahou qui les a mis en avant contre l'OLP, tu vois, bah, pour diviser pour mieux régner. Alors bon, il y a tout un tas, ce qui n'excuse pas les horreurs, si tu veux. Mais t'as les causes, si tu veux, la causalité est là. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Alors t'as ce matin, t'as l'Anglais qui vient, alors c'est les premiers responsables de la merde dans le monde. Excuse-moi, avec les Français un peu après. Alors, si y a vraiment des responsables de ce qui se passe là-bas, et après les accords Balfour, etc., c'est bien eux. Et donc, tout le monde dit, allez, entretuez-vous, là, allez-y, finissons. Le fait est, ce qui est sûr et certain, c'est que l'idée de base, c'est de virer les Palestiniens de Cisjordanie. Ça, c'est sûr et certain. Moi, j'ai vu des manifs de colons et tout. Les colons, ils font la chasse aux Palestiniens. Bref, et c'est ça l'idée. Alors, est-ce que ça va se faire ou pas? Est-ce que les Américains vont pouvoir filer du fric? Alors, parce que aux Égyptiens, ils vont acheter, ils vont dire, écoutez, là, c'est pas grave. Des peuples oubliés, tout. Bah, c'est vrai, l'histoire montre que tu as des peuples qui disparaissent, hein, des entités. Hein. On parlait, tiens, j'ai fait la guerre du tout au Kurdistan, à l'époque c'était les Mèdes, tu vois, les Mèdes ils ont disparu, je sais plus qui s'est massacré. L'histoire du monde, c'est des. C'est ça, quoi. C'est... Alors, bon, bah, là, c'est le coup des Palestiniens. Bon, alors, il y a des médias. Ça fait chier, quand même, les médias, parce que, bon, tu vois, des trucs, des gens, c'est l'émotion, quoi, tu vois, l'émotion. Et c'est vrai, j'en fais partie. Moi, j'essaie de faire un travail mémoriel, c'est-à-dire, dans les endroits, j'essaie de faire un minimum de photos d'émotion, parce que d'abord, j'en ai fait beaucoup, et puis, je veux dire, ça n'arrange rien, c'est qu'ajouter de l'eau, de l'huile sur le feu, mais je sais pas quoi dire. Des fois, je me dis, il faut arrêter de. Mais d'un autre côté, quand tu rentres en France et tu vois les problèmes qu'il y a, bon, là, il y a eu l'histoire des profs là qui ont été tués, donc effectivement, les gens ils disent, ah bah tiens, il y a des problèmes dans le monde, qu'est-ce qui se passe, etc. Mais sinon, je pense que quand il y avait la deuxième guerre mondiale, les Argentins ou les Chiliens, il n'y a rien à faire de ce qui se passait en Europe. Bon, ça devait être un truc
À Bayeux, il y avait Don McCullin, et au mémorial des reporters, tu sais, où il y a tous les ans cette cérémonie émouvante à nos morts, blablabla. Il y a McCullin qui a dit, quand j'ai commencé, je croyais que mes photos pouvaient changer les choses. Mais en fait, je me suis aperçu que ça servait à rien.
Oui, ça c'est aussi une posture. Je connais avec Donald McCullin, on était à Beyrouth en 82, on travaillait pour Newsweek tous les deux, et je me souviens bien, on était en compétition, hein, puisque bon, bah, dire les choses, et j'avais fait la une de Newsweek, et il m'avait mis un petit mot sous la porte du Commodore Hotel en disant bravo, Yann, la relève est assurée. Et c'est vrai qu'il y a ce fantasme de on va changer le monde. Non, on ne change pas le monde. Le monde, c'est le prénom qui change, mon prénom, mais qui tire les marionnettes, et qui change en bien ou en mal. Ils ne savent pas parfois, hein. Qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est ce qui se passe actuellement, ils ne savent pas où ils en sont, quel élément. Des fois c'est vrai que ça part en sucette, hein. On l'a vu ces dernières, bon. Et il y a quelque chose qui est vraiment important, et moi là-dessus j'en parlais, je me disais, mon travail c'est quoi, c'est un travail qui est mémoriel, c'est-à-dire je sais que je ne vais pas changer de choses, en revanche, ce qui est important c'est cette mémoire, c'est-à-dire si on n'a pas la mémoire, mais qu'est-ce qu'on est, quoi. Et sa mémoire, c'est l'identité. Je veux te dire, effectivement, aujourd'hui, tout est fait pour annihiler la mémoire. Et rien que le fait d'attaquer les profs d'histoire géo, c'est la preuve.
Ben oui.
C'est ça. Donc, moi, je fais un travail mémoriel. Je me retrouve sur des endroits de conflit, que ce soit l'Ukraine, etc. J'y vais pas pour faire des scoops. Si je me retrouve, j'ai jamais fait ça d'ailleurs, hein. Même quand j'étais au Liban, même quand j'étais au Kurdistan, en Iran, etc., ou au Zambie, j'ai jamais cherché des scoops, ça ne m'intéresse pas. En revanche, j'essaye de faire un travail mémorial, c'est-à-dire un travail pour raconter des histoires. Là, j'ai passé 8 jours en Israël, j'ai raconté 2 histoires avec le rédacteur-chef. Bon, une histoire du côté israélien, une histoire du côté palestinien, et c'est propre. Les choses, on n'a pas mis de l'huile sur le feu, on n'a pas été manichéen en disant il y a les bons, il y a les méchants, enfin tu vois, c'est pas ça, c'est voilà, ça se passe comme ça. Et ça, c'est le propre de ce métier. Je pense que la photographie est primordiale, même par rapport au texte, parce qu'elle montre, mais elle montre dans un contexte, hein, ce que disait Barthes, hein, et pas une légende. Et c'est-à-dire, ce qui est important aujourd'hui, et ce que je vois qui a disparu, c'est le récit photojournalistique, parce que tout ce que j'ai vu là, qui passe là, c'est des photos d'illustration. Parce que, comme comme tu peux pas travailler, tu peux pas raconter différentes choses. Je voulais faire un reportage sur un kibbutz d'ultra-droite, parce que c'est un peu le problème, il vient un peu de là aussi. Hein. Je veux dire, tu ne peux pas, c'est complètement interdit, ils sont protégés par les militaires, etc. Et si tu approches d'un kibbutz ultra, tu te fais tirer dessus. À bon escient, peut-être qu'ils pensent que c'est palestinien. Moi, sur ma bagnole, il n'y a jamais marqué presse. J'ai pas de gilet pare-balles sur le cliché parce que je suis trop vieux maintenant pour courir avec, tu vois. Donc, bon. Raconter des histoires d'un côté comme de l'autre, parce que bon, les Palestiniens, là, on va les mettre malheureux, mais enfin bon, ça va, quoi. Je veux dire, ils ont fait pas mal de. Le Hamas, c'est quand même pas des enfants de cœur, hein. Et puis le pognon, quand tu vois l'autre qui est le chef, là, qui est à, je sais pas, à Doha, je veux dire, ça rigole, hein. Je veux dire, et puis bon, bah, moi, je me rappelle, Yasser Arafat, je l'ai côtoyé, je veux dire, ça, c'est pas. Hein, il vit pas dans 10 mètres carrés, hein. Je veux dire, c'est pas. Tous ces gens-là, bon, ils profitent, hein, de la guerre. La guerre, c'est le plus grand métier. Je veux dire, c'est où il y a le plus de pognon. À la vente des armements, les choses comme ça, etc. C'est là où tu fais l'argent. Il y a dans le monde, il y a deux voies pour gagner du fric. Il y a la guerre, les armes, la vente, tout ce qui va autour, sécurité, machin, etc. Et après, entertainment. Entertainment, c'est les films, la propagande, les machins, les télés, etc. C'est les deux gros business. Ces business sont alimentés par l'économie. L'économie, le pétrole, le machin, etc. Mais à la limite, c'est accessoire. Mais je veux dire, les deux gros business qui prend la tête, tu vois, etc., c'est ça. C'est la guerre, parce que la guerre, t'as l'émotion, puis les gens, ils kiffent, hein, je veux dire, même, je dirais là en France. Je disais les réseaux sociaux ce matin, je disais un truc, tout le monde se déchaîne, hein, d'un côté comme de l'autre. Hein. Mm. Je veux dire, ils sont chauds, hein. Puis c'est la petite nana là, qui habite dans le 18e, ou le mec qui est dans le 6e, et c'est il faut tous les tuer. Ils n'y ont pas été, tu vois, ils sont gentils, tu vois, c'est comme dans les journaux, là, t'as des gens dans les journaux, là, qui des éditorialistes, et que ça, mais qu'ils ont qu'à aller en première ligne. Il faut qu'ils voient. Quand tu marches sur les cadavres, quand tu vois le sang, les hurlements, les trucs, le bruit infernal, tu vois, c'est pas simple. Là. C'est le réel, le vrai problème, nous, c'est qu'on a tellement mis des trucs à la télé, les machins, les trucs, que le réel, tiens, les photos aussi, hein, je suis d'accord. Et les gens ne se rendent pas compte que le réel, c'est quelque chose d'énorme. Hein, c'est pas du film. Alors maintenant, ils font des jeux vidéo. J'étais en Ukraine, j'étais à Randivka là, cet été. Il y avait un mec qui jouait à un jeu vidéo de sniper. Il était sniper. Et là, tu te dis, mais waouh! C'est-à-dire, bon, bah, okay, qu'est-ce que tu peux pas t'en sortir.
Ouais. Bon, mais merci, Yann.
Alors j'ai dit une chaîne, voilà.
Merci, Yann, merci.
Ce podcast a été enregistré par téléphone le jeudi 19 octobre 2023 à 11h30 par Michel Puech. La réalisation est de Jean-Louis Vinet, la voix de Rose Monet et la musique de Paz.